Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux, adeptes du podcastor et du courant alternatif. Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'onde sismographe de ce lundi 16 février. Aujourd'hui, alors que la France, et particulièrement la France culture, se demande ce matin si nous sommes préparés à la nouvelle donne climatique après l'épisode de la tempête Niels, et alors que l'Ardèche se confond avec le Nord, voire la Bretagne, on essaie de se remonter le moral et de se dire « Il n'est pas trop tard puisqu'on est là ». « Il n'est pas trop tard puisqu'on est là », c'est le titre du spectacle créé par la compagnie La Ligne et en ce moment en tournée dans les villages. Fruit d'un ambitieux projet collaboratif de sensibilisation aux enjeux écologiques et climatiques et de recueil de la parole des habitants, scientifiques, des élus, des réflexions, des récoltes et une création au long cours qui a duré 3 ans et initiée par le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Alors, face à l'urgence écologique actuelle, que peut la fiction pour nous aider à imaginer les futurs possibles et à nous mettre en action ? Eh bien, on en parle dans un instant avec Elisa Jaffrenou, qui est chargée de mission culture au PNR, au Parc naturel régional des Monts d'Ardèche, et avec Maya Jarville, qui est directrice de la compagnie La Ligne. Mais ça, bien sûr, c'est après la bise à Sylvain. Oh, mais bonjour. Que se passe-t-il ? Bonjour Sylvain. Et puis l'agenda. Aujourd'hui dans l'agenda, des associations vivantes qui dialoguent d'une manière ou d'une autre avec ce que fait le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche. D'abord, si on parle territoire, pour ce projet, il n'est pas trop tard puisqu'on est là, vous avez sillonné l'Ardèche pour recueillir des témoignages, vous avez écrit une histoire sur une base documentée et documentaire, et ben, c'est pas trop loin de ce que propose Ardèche Images avec son programme Par les villages. Demain à 19h au cinéma de Lussas, vous pourrez assister à la projection du film documentaire 143 rue du désert. Alors on parle de changement écologique, mais là ça n'a rien à voir avec la choucroute. Rue en plein désert algérien, dans son relais, une femme écrit son histoire. Elle accueille, pour une cigarette, un café ou des œufs, des routiers, des êtres en errance et des rêves. Elle s'appelle Malika et le film documentaire s'appelle 143 rue du désert. Le réalisateur Hassan Ferrani sera présent. Et puis, comme toujours dans ces sessions par les villages, ce sera précédé d'archives amateurs de Berg et Coiron et du court-métrage étudiant qui s'appelle Quelque part sur Terre, qui a été tourné à Saint-Didier sous Aubenas. Voilà, c'est demain à 19h au cinéma de Lussas. L'entrée est à prix libre et il y a toujours un petit pot pour boire un coup et papoter juste après. Le ciel. Alors que le Parc naturel régional des Monts d'Ardèche porte la candidature à la labellisation de réserve internationale de ciel étoilé, décernée par l'International Dark Sky Association, je l'ai travaillé, un label international qui reconnaît les efforts engagés pour préserver la qualité du ciel nocturne tout en sensibilisant les habitants et les visiteurs à sa beauté et à sa vulnérabilité, eh bien on peut une nouvelle fois se régaler et rêver la tête dans les étoiles samedi grâce à une observation du ciel à l'œil nu et avec télescope, organisé à Chassier par l'association Claire d'Étoiles et Brin de Jardin. Ce sera dès 19h dans la cour de l'école publique et c'est ouvert à tous, petite, grand, vieux, voilà, avec une libre participation aux frais. C'est donc samedi dès 19h à Chassier. Après le ciel, la terre. Et le pastoralisme, encore bien vivant en Ardèche et sur les territoires du PNR, qui est ce soir mis à l'honneur, enfin non, pas ce soir, qu'est-ce que je dis, samedi mis à l'honneur à Vaisseau avec la fête de la transhumance, initialement prévue le mois dernier, mais qui a été reportée à cause des conditions météo défavorables. Eh ben, on croise les doigts hein, pour samedi. Je ne sais pas si vous avez des informations. Maître météo, Sylvain, non. Non, Sylvain, c'est non, au jour
je,
le jour.
Je hein. ne regarde pas aussi loin, moi.
Mais non, oui, mais
déjà
oui.
que sous 48 heures, Météo France a du mal à dire la vérité.
Aïe, Météo France nous ment-elle. En tout cas, la fête de la transhumance, ce sera samedi, on l'espère, à Vaisseau de 10h à 16h. Et ce sont quelques 450 brebis qui vont transhumer de Vals et Saint-Andéan-de-Vals vers le plateau du Coiron en passant donc par Vaisseau. C'est un événement qui est orchestré par la communauté de communes du bassin d'Aubenas. Et puis avec plein de temps fort hein, pendant ces 6 heures. Tout ça près de l'école Saint-Joseph. Donc il y aura un marché de producteurs locaux et d'artisans, évidemment les brebis et les bergers, une buvette, des démonstrations d'oies de garde, une conférence sur le pastoralisme. Et oui, j'en profite pour vous signaler le podcast Les Mondes de Demain, consacré justement au pastoralisme avec Simon Parcot, qui est philosophe et berger. C'est un monde demain qui avait été diffusé la première fois le 10 novembre et qui est à réécouter sur le site de Fréquence 7. Quant à la fête de la transhumance, je le rappelle, c'est samedi, si tout va bien, à Vaisseau de 10h à 16h. Et on termine par l'eau. Puisque Baptiste Morisot s'est invité dans notre interview de tout à l'heure et qu'il parle du rôle fondamental et inspirant du castor pour changer notre rapport à l'eau, notamment dans son livre « Rendre l'eau à la terre, alliance dans les rivières face au chaos climatique » avec Suzanne Youski également, ça c'est aux éditions Actes Sud, et bien sachez que depuis quelques jours est en ligne sur YouTube le deuxième film réalisé par l'association naturaliste Fiber Nature, basée à Gros-Pierre, après Le Castor en Ardèche, projeté un peu partout hein, sur le territoire et puis même au-delà en France, dans des cinémas, des festivals, etc. Ce deuxième opus, qui s'intitule Les secrets du castor européen, a été réalisé par le cinéaste ardéchois Vincent Pons, qui est membre de l'asso. C'est donc un film à voir sur la chaîne YouTube de l'association Fiber Nature. Une mise en récit du castor bien documentée. Et justement, on se demande... quelles histoires peuvent nous faire changer de comportement par rapport aux enjeux climatiques? On en parle tout de suite avec Elisa Jaffrenoux et Maya Gerville. Enfin, quand je dis tout de suite, c'est juste après ceci. Et oui, on est en train d'écouter Guayaquil, je sais pas prononcer, de Hermanos Gutiérrez, extrait de l'album El Camino de mi Alma, sorti en 2018. Le choix de l'une de nos invitées, Maya Jarville, directrice de la compagnie La Ligne. Bonjour Maya.
Bonjour.
Pourquoi ce choix ?
Alors, c'est pas une musique qui est dans le spectacle, parce que j'étais venue il y a quelques temps dans ce même studio parler de l'autre saison et je vous avais fait écouter une musique qui est le thème principal du spectacle. Donc, il a fallu trouver autre chose et ça, c'est simplement une musique qui m'a beaucoup accompagnée dans l'écriture, les temps d'écriture du projet.
Donc, voilà, le spectacle, il n'est pas trop tard puisqu'on est là.
Voilà.
Que tu présentes avec Elisa Jaffrenou, qui est chargée de mission culture au Parc naturel régional des Monts d'Ardèche. Bonjour.
Bonjour.
Merci à toutes les deux d'être là. Vous êtes là donc pour parler de ce spectacle. Spectacle, mais en fait, c'est la partie immergée de l'iceberg. Immergée.
C'est ça,
oui. Oui. Puisque c'est le fruit de tout un travail au long cours, notamment d'un an où vous avez sillonné avec la compagnie La Ligne l'Ardèche pour aller à la rencontre des habitants, des élus, des scientifiques, etc., pour recueillir leurs paroles et en faire quelque chose. Mais d'abord, on va essayer de revenir un petit peu à l'origine de ce projet. Elisa, qu'est-ce qui est passé par la tête du Parc naturel régional pour proposer quelque chose comme ça ?
Alors Sophie, tu l'as dit tout à l'heure, on propose déjà des rendez-vous grand public sur les questions de transition écologique depuis les années 2020, qu'on appelle la programmation Les Monts de Demain, qui vise effectivement à sensibiliser les habitants du parc à ce grand sujet, avec l'intervention beaucoup de conférenciers qui viennent nous éclairer sur ce sujet-là, avec des approches qui sont pas forcément locales, qui peuvent être nationales ou internationales. Tu as cité tout à l'heure Simon Parco, voilà, on a aussi des formes un peu plus originales, comme des randos philo, mais surtout des conférences qui ont trouvé leur public, qui ont un certain succès, mais qui touche quand même un public de personnes qui sont déjà relativement sensibilisées à ces sujets-là. Donc c'est très satisfaisant. Mais pour autant, on s'est posé la question assez rapidement de comment essayer d'élargir à un autre public et pas forcément celui qu'on côtoie lors de ces rendez-vous. Et il se trouve que si on remonte un peu aussi dans le temps, à partir de 2021-2022, un certain nombre d'acteurs culturels dont fait partie le parc, mais fait aussi partie la compagnie La Ligne, se sont réunis autour de cette question des nouveaux imaginaires autour de la transition écologique, avec l'idée de... Donc il y avait aussi la FRAPNA qui coordonnait ce travail-là, de se dire comment on peut chacun, dans nos missions, essayer d'œuvrer à proposer des nouveaux imaginaires nécessaires pour embarquer aussi la prise de conscience, mais aussi le changement de comportement autour de l'urgence écologique et climatique. C'est comme ça qu'on a commencé à se côtoyer avec la compagnie La Ligne. Il se trouve qu'on se connaissait déjà précédemment sur d'autres projets, mais en tout cas autour de ce sujet-là, qu'on avait cette envie partagée et qui est petit à petit née l'idée de faire quelque chose ensemble autour de ce sujet, avec nous tout de suite l'envie de le faire avec des partenaires territoriaux. C'était la condition, il ne fallait pas que ce soit hors sol. Et là, on s'est tourné vers les communautés de communes, alors disant, on aimerait pouvoir proposer un projet de pièce de théâtre avec la compagnie La Ligne, nourri effectivement de la rencontre avec les habitants. Mais pour mener ça, on a envie effectivement que ce soit partagé, que ce soit aussi porté avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et là, on a eu plutôt un feu vert assez large des communautés de communes qui ont vu l'intérêt de travailler en dehors des logiques de silo, c'est-à-dire de faire croiser la culture avec les questions de transition écologique et puis de mener un projet aussi qui ne soit pas à leur échelle intercommunale, mais à une échelle du coup plus large et à l'échelle du parc.
Et concrètement, comment elles se sont inscrites dans ce projet ? Qu'est-ce qu'elles ont fait ?
Alors concrètement, certaines d'entre elles ont levé la main dès la première année, dont peut-être Maya va parler un peu plus tard, avec du coup la conduite d'actions d'éducation artistique et culturelle, dans le cadre de leur convention territoriale d'éducation artistique et culturelle, ce qui a permis au projet de démarrer et de s'ancrer sur 5 comités de communes du parc avec des rendez-vous artistiques de médiation, dont Maya pourra parler un peu plus en avant. Et peut-être juste avant de donner la parole, peut-être rajouter aussi un des intérêts qui a été pointé dans le projet par nos partenaires, c'est aussi la dimension recherche, puisque dès le départ, on souhaitait aussi associer à la dimension artistique et sensible un apport de la recherche. Et donc, on a pu sélectionner une anthropologue, Lucille Florenza, qui est venue dans un dialogue avec la compagnie l'accompagner dans cette création. Et du coup, c'était aussi un élément intéressant dans le projet qui a été déterminant pour nos partenaires.
Alors justement, comment tu t'es emparée avec la compagnie de la ligne de ce projet-là? Comment tu t'en es emparée et comment vous avez fonctionné justement avec Lucille
Florenza. Il y a vraiment eu plusieurs étapes. Hein. On a vraiment distingué des temps de travail. Donc cette première année qui était une année de recherche, d'entretien, d'atelier et de propositions sur les différentes communautés de communes. Donc dans ce cadre-là, c'était en fait des résidences un peu au temps long. C'est-à-dire que sur une communauté de communes, quand on proposait 2, 3, 4 jours d'atelier, de pratiques artistiques en tout genre, hein, on a fait des propositions très variées. Il y avait aussi en parallèle de ça des temps de résidence pure et d'écriture et de rencontres et d'entretien. C'est-à-dire que principalement en binôme avec Lucille, mais parfois avec une partie de l'équipe artistique ou des gens qui sont venus ponctuellement m'accompagner qui n'ont pas forcément fait partie du projet. On était là et on rencontrait les gens, on discutait, on interrogeait.
Voilà, par exemple, pour qu'on se représente, c'était quoi un atelier? Vous demandiez, alors déjà, qui venait? Est-ce que c'est un peu tout le monde? Parce que tu disais, Elisa, les actions menées, les conférences, etc., dans le cadre des Mondes Demain, c'est déjà des gens un petit peu sensibilisés. Est-ce que là, il y avait d'autres personnes? Parce que...
Alors, c'est pour ça qu'on a fait des temps d'atelier et des temps vraiment de pure rencontre et entretien. C'est-à-dire que dans les ateliers, on touche effectivement plus facilement un public qui a déjà l'habitude d'une pratique culturelle qui va s'inscrire naturellement. Mais on a aussi fait des tentatives justement un peu autres, par exemple des stages de clown, ce qui n'est pas forcément inné, ce qui n'est pas forcément évident, je veux dire, sur le thème de la transition écologique. Mmh. Et puis après, donc on a touché des gens soit par la pratique pure, soit vraiment par la thématique. On a aussi parfois proposé des ateliers de lecture, par exemple, de partage de textes sur cette thématique-là. Et là venaient des gens qui avaient envie de découvrir des choses, de partager, d'échanger, qui étaient déjà dans une démarche. Mais ensuite, les entretiens, pour le coup, là, on touchait un public beaucoup plus large en allant rencontrer... des gens quand même qui étaient concernés par la question d'une manière ou d'une autre. Et je pense par exemple à tout le secteur agricole, mais aussi tout le secteur touristique, tous les gens qui travaillent de près ou de loin en lien avec l'eau, tout simplement, qui sont concernés au premier plan. Et oui.
Quel type de questions vous leur posiez, par exemple?
Alors, c'était des entretiens très ouverts, très larges, et on n'avait justement pas de trame de questions qui soit toujours la même, puisqu'on rencontrait des gens de champs très divers et variés. Et des entretiens libres, c'était vraiment l'idée de... En fait, la définition que donne Lucille de l'anthropologie, c'est de comprendre comment un être humain se situe dans son environnement, comment il le perçoit, comment lui, il interagit avec son univers. Mais du coup, pour aller comprendre ça, il faut nous qu'on parte de zéro pour essayer de comprendre et de rentrer dans l'univers de la personne qu'on a en face de nous. Donc en fait, on lui posait la question de qu'est-ce qui compte pour elle, qu'est-ce que c'est son travail, qu'est-ce qu'elle fait ou c'est quoi son quotidien, ou qu'est-ce qu'elle constate, est-ce qu'elle voit des changements, de quel type. Mais c'était très très ouvert et même au bout d'un certain temps, on s'est dit qu'il fallait surtout pas aborder les questions de transition écologique ou de crise climatique frontalement. Mais de partir de la réalité vécue des gens sur le terrain. Et après, ça existe pour eux ou ça n'existe pas, mais ce n'était pas à nous de l'induire, justement.
Mmh. Et il y a des choses qui vous ont, enfin j'imagine, qui vous ont surprise, des réactions, des réponses, des témoignages de vie, de relations, justement, aux éléments, aux vivants.
Oui, on a eu, entre guillemets, l'agréable surprise de découvrir déjà tout ce qui s'invente, toutes les solutions qui, à l'échelle locale, existent, et de se dire que, justement, l'échelle du local était peut-être un prisme intéressant pour cette question-là, c'est-à-dire que c'est l'endroit où peut-être on peut retrouver un peu de pouvoir d'agir face à l'écrasante question de cette crise qui nous arrive et face à laquelle parfois on est un peu perdu. À l'échelle du local, il y a des choses à faire. Alors, ça ne résout pas tout, hein. On n'est pas naïf à ce point, mais en tout cas, ça redonne à chacun un peu de pouvoir d'agir, et ça, c'est déjà hyper important, quoi. Mmh. Et après, oui, dans les surprises, il y a des thématiques qui ont surgi d'elles-mêmes, auxquelles on ne s'attendait pas forcément, qui sont du coup des thématiques qui sont restées centrales dans l'écriture et qui le sont dans le spectacle, notamment le thème de l'eau, par exemple, sans qu'on l'aborde spécialement. Je crois qu'il n'y a pas eu un entretien où il n'en a pas été question.
Mmh. Alors, justement, tu nous as pointé un petit extrait sonore à écouter, où on parle justement d'inconnu, comment on fait. Prendre l'inconnu comme boussole, c'est Baptiste Morisot.
Il existe en marine la pratique de la navigation négative. Elle sert volontiers pour s'orienter dans l'existence. Elle se pratique quand on ne sait pas où l'on est et qu'on ne peut pas le savoir. L'essentiel est alors de savoir où l'on ne doit surtout pas être sur la carte et de déterminer scrupuleusement sur le papier ce que l'on doit observer autour de ces lieux de mort. Quelles amers, phares, côtes, falaises seraient en vue si on était là où on ne doit pas être. Ensuite, l'essentiel est de se tenir à distance de ces repères. C'est un art intrigant. Prendre l'inconnu comme boussole, l'absence de repères visibles comme signe qu'on est au bon endroit, parce que chaque repère connu est le signe qu'on est au mauvais. N'être rassuré, sûr de son chemin, certain de son cap, que lorsqu'on atteint l'inconnu.
Alors, c'est pas facile, c'est tout à fait contre-intuitif, se rassurer par l'inconnu. Alors, pourquoi cet extrait sonore ?
Alors déjà, vous dire qu'il est très particulier parce qu'en fait, il n'est pas du tout représentatif du spectacle puisqu'il n'y a pas de texte d'auteur autre que ce qu'on a produit, nous, dans le spectacle, puisqu'on a complètement écrit, avec les comédiens, on a complètement écrit le texte du spectacle. Ça, c'est la seule citation d'auteur qu'on a gardée. Et on l'a gardée parce qu'elle est une vraie boussole pour nous puisque... mais je crois que j'ai pas tellement envie de l'expliciter ou de l'expliquer. Je crois que c'est une image poétique qui nous dit aussi que ce qu'on a déjà fait n'était pas forcément le mieux et qu'il y a autre chose à inventer. Mais je crois que l'image parle d'elle-même.
C'est un peu finalement ce que tu disais aussi, enfin, ou plutôt ce que Lucille Florenza disait, le rapport à l'anthropologie, c'est-à-dire ne pas faire avec ses propres idées, enfin ses idées préconçues, repartir de là où on en est maintenant et comment on fait ensemble et comment être à l'écoute aussi, être à l'écoute de ce qui se passe et interagir.
Ouais. Et puis dans cette idée de la navigation, il y a quand même aussi cette idée effectivement que tu dis là du collectif. On n'est pas tout seul sur un bateau, ça marche pas quoi. Il faut y aller ensemble.
Alors justement, je rebondis sur le titre du spectacle. Qui a aussi une dimension un petit peu collective, hein, et le spectacle qui est un peu rigolo. Il n'est pas trop tard puisqu'on est là. Il n'est pas trop tard puisqu'on est là. Comment est né ce titre ?
Oui, bah, il est humoristique aussi, puisque d'ailleurs on commence le spectacle en disant qu'il est peut-être trop tard et que...
Parce qu'on est foutu, en fait.
Ben, en tout cas pareil, il a plusieurs sens possibles, ce titre. Il n'est pas trop tard puisqu'on est là, ou inversement, enfin... Après, je ne veux pas trop dévoiler
non, non, non. Mais c'est intéressant aussi ce que tu dis, c'est que dans le spectacle, il y a de l'humour. Alors, on en vient à cette dimension créative, artistique. Comment, à partir de ce matériau documentaire, ben, on crée quelque chose qui n'est pas ni linéaire, qui n'est pas programmatique. Qui n'est pas programmatique, qui doit être un espace justement où les gens peuvent trouver ce qu'ils ne cherchent pas ou chercher à nouveau des choses auxquelles ils ne pensaient pas. Comment on fait ça ?
Bah, y a comment on a fait là, dans cette situation. Il se trouve que c'est une question qui est à chaque projet, je pense, différente. Là, il y avait ce cadre documentaire avec effectivement énormément de matière, puisqu'on a fait une soixantaine d'entretiens pendant cette année avec Lucille, qui durent de 1 à 3 heures chacun. Et puis, on a écouté des scientifiques, on a lu, on a cherché, on a accumulé une quantité de matière comme ça qui était assez hallucinante. Et puis, il y avait aussi la commande du parc. C'est-à-dire que il y avait des attentes liées à ce que est censé produire ce spectacle chez les gens. C'est pas juste un spectacle comme on pourrait le dire pour d'autres. Il y avait une mission en lien avec ce spectacle, et on a fait le choix de s'en amuser et de la détourner et d'en jouer dans le spectacle, parce que c'était une forme qui était très contrainte par cette chose-là, sinon.
D'accord. Et est-ce que l'objectif, est-ce que la mission, c'était ça, c'était de faire un spectacle qui se veut ni culpabilisant, ni moralisateur, ni démoralisant ? C'était un peu l'idée ?
Complètement. L'idée, c'était vraiment d'essayer de toucher un peu autrement que par des apports scientifiques, mais vraiment pouvoir travailler à partir des émotions. Effectivement, tu as parlé de l'humour, ça peut être aussi de la joie. Enfin, en tout cas, que les spectateurs, effectivement, traversent un certain nombre de sensations, de réflexions, d'émotions qui ne sont pas forcément celles qu'on traverse quand on va à une conférence ou quand on voit un film documentaire. Donc vraiment, c'est le propre de l'art et de la culture de pouvoir jouer là-dessus. Et c'est vrai que Maya et son équipe s'en sont très bien sortis parce que le défi était, était vraiment très élevé. Que on est toujours sur un fil, qu'on rien n'est jamais garanti à l'avance, mais qu'effectivement aujourd'hui on le voit puisque du coup le spectacle commence à rencontrer son public. Le pari est réussi dans le sens où il y a vraiment quelque chose qui se traverse pour les spectateurs, où effectivement chacun est parcouru par plein de réflexions, de d'immensité face à la tâche, d'impossibilité, mais effectivement puisqu'on s'ancre localement, il y a quand même cette idée de se dire à un moment donné, il y a du pouvoir d'agir qui revient et que du coup, même si on a l'impression, et c'est une réalité, qu'on court à catastrophe, qu'en étant ensemble et en s'ancrant sur un territoire où il y a déjà des initiatives, les choses sont possibles. Donc voilà, le propos est tout à fait juste et ce recours aux émotions voilà, nous permet quand même de proposer une autre manière de raconter ce qu'on vit actuellement et de pouvoir se projeter aussi ensemble dans l'avenir.
Alors on va écouter tout de suite quelques réactions du public et puis on va parler après de la réception du public.
C'est vraiment incroyable, il y a une quantité d'informations, c'est phénoménal, il y a beaucoup d'humour et c'est en plein dans le milieu, c'est vraiment une prise de conscience de la situation actuelle et voilà, des propositions sur un territoire, ce qu'on peut faire ensemble.
Et là, en fait, tout ce qui a été dit, je trouve que ça titille un peu, ça dérange. Et c'est hyper chouette, c'est très très bien fait, c'est très bien joué. Ça pose les vraies questions, les réponses, personne ne les a, mais on peut peut-être chacun y réfléchir de manière un petit peu plus sérieuse.
Bon, je ne sais pas si vous avez entendu, le son était pas forcément très très bon, mais voilà, quelques premières réactions. Alors, Maya, le spectacle est en tournée, ça y est, vous avez fait les premières dates, là c'était mercredi 4 février à La Mastre et vendredi 6 février à Valgorge et le 7 à Méras, ça c'était les premières.
Ouais.
Alors, comment vous êtes confrontée, toute l'équipe, là, justement au public, enfin confronté, comment vous avez dialogué après peut-être, quels étaient les ressentis?
Le spectacle est plutôt bien accueilli, pour l'instant les retours sont assez chouettes, après ils sont très variés, mais c'était aussi un des enjeux pour nous, c'est-à-dire de s'adresser à un public, on va dire au champ de connaissances le plus large possible, c'est-à-dire qu'il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture et de réception possibles pour des gens qui face à ce sujet-là seraient complètement novices ou ignorants ou voilà découvrants, ou des gens qui seraient déjà bien informés, voire engagés, voire écolo, militants, etc. Et avec l'idée qu'on peut s'adresser à tous et donc le spectacle revient régulièrement sur soi-même en fait, sur comment chacun on se positionne, et ça je pense qu'on peut se poser cette question-là à tous les niveaux d'engagement possibles. Donc en fonction de ces niveaux d'engagement, on a des retours très variés, mais plutôt assez chouettes. Je pense que le fait qu'on rit, on rit quand même dans ce spectacle, ça aide beaucoup, je crois.
Il y a une histoire de truite notamment.
Très mais incroyable. Ça, il faut venir voir le spectacle. On ne dévoilera pas plus maintenant. Il reste des dates. Venez.
Il reste des dates. Alors, c'est le moment d'en parler. La prochaine date, c'est demain. C'est aux Estables. Demain à 20h. Ensuite, ce sera à Albon d'Ardèche. Alors, c'est un peu plus loin. Le 21, c'est à Saint-Privat. Donc, le samedi 21 février, c'est ce samedi à 20h30 à Saint-Privat. Mais, Elisa, tu disais tout à l'heure...
Que c'est déjà complet.
C'est déjà complet, donc s'il y a des désistements, peut-être, il faut, là, pour le coup, se rapprocher du parc naturel régional.
Oui, par téléphone ou s'inscrire en ligne sur l'agenda du parc.
Et s'il n'y a plus de place à Saint-Privat, c'est à l'Oracan Vivarais, le 6 mars, à Chambonas, donc près des Vences, le 7 mars, ou au Béage, le 8 mars. C'est, y a une vraie attente, alors, du public, enfin, si c'est déjà complet là, pour les quelques dates.
Tout à fait, ben on en est tous très heureux et aussi surpris. C'est vrai que l'avant-première avait permis de sonder un petit peu quand même la réception des spectateurs au spectacle, mais on était un peu avec des partenaires. Et là, effectivement, la rencontre avec le grand public nous rend vraiment très enthousiastes. Maya vient de le dire, mais on a vraiment des gens qui réagissent à tous nos niveaux et qui nous remercient de pouvoir aussi organiser ce moment sur ce sujet-là, avec l'envie aussi qu'il y ait des suites, puisqu'effectivement, bah, du coup, on fait quoi ? C'est la formule aussi que Maya a proposée. Enfin, voilà, sur concrètement, comment je me mets en connexion aussi avec des initiatives sur mon territoire, qui fait quoi, vers qui je peux me tourner, et puis montrer aussi qu'il y a déjà des choses qui sont à l'œuvre sur ce territoire. Donc tout ça, on y travaille, on y réfléchit, avec l'envie aussi de compléter cette tournée par d'autres dates, peut-être plutôt à l'automne, sachant qu'il y aura déjà une date le 30 mai à la Crypte, il faut le rappeler, donc une 10e date. Et puis on travaille avec la compagnie sur des dates complémentaires cet automne, afin de pouvoir répondre aussi à cette demande qui a lieu, qu'on ressent aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a déjà, est-ce que le spectacle va être peut-être transformé ou enrichi par rapport justement aux réactions qu'il y a en ce moment ?
Alors, on est en réflexion pour la saison prochaine, effectivement, sur des ateliers qui auraient lieu avant, après, surtout le spectacle, pour voir aussi comment on accueille la réception de ça, qu'est-ce qu'on en fait, quel temps de parole on se donne collectivement pour réfléchir ensemble aussi. Je pense que c'est important. Là, on n'a pas pu l'organiser dans le cadre de cette tournée parce que c'est assez serré, mais c'est vraiment des choses qu'on a envie de mettre en place pour la suite, voire même jusqu'à la réécriture d'une petite partie du spectacle, effectivement, en fonction de choses. De choses qu'on aura récoltées auprès d'habitants sur des territoires peut-être encore plus resserrés, du coup. Et aussi de voir comment ce spectacle réagit hors Ardèche, puisque là, il est beaucoup question d'Ardèche, vraiment du territoire du parc en plus en particulier. Mais on se rend compte, demain, on joue aux Estables. En fait, c'est la Haute-Loire. Donc déjà, ça nous questionne sur plein de parties du texte. Mais voilà, de se dire aussi, c'est un spectacle qui trouverait un écho dans plein d'autres endroits que le territoire du parc. Et de voir comment on s'adapte ou pas, comment est-ce qu'on transforme ou pas le texte en fonction des territoires.
Et oui, le local, c'est une réponse, ça ouvre, ça éclaire sur des situations qui sont...
Oui, qui sont similaires sur plein de territoires, en fait. Enfin, les questions d'eau, par exemple, on le voit bien au National en ce moment, ça ne nous concerne pas que nous.
Eh ben, merci beaucoup toutes les deux d'être venues à ce micro pour parler de Il n'est pas trop tard puisqu'on est là, par la compagnie La Ligne, évidemment organisée, accompagnée, initiée par le Parc Naturel Régional des Monts d'Ardèche. Les quelques dates là pour vous, donc les prochaines, c'est demain, mardi, c'est ça, mardi 17, oui, c'est demain, aux Estables. Saint-Privat, le 21, c'est complet, mais peut-être il y aura des désistements, sinon c'est le 6 mars à l'Aurac en Vivarais, le 7 à Chambonas et le dimanche 8 mars au Béage. Merci beaucoup Sylvain pour la réalisation de cette émission. Merci à vous auditrices et auditeurs. Restez à l'écoute de Fréquence 7. Alors à 13h, Sam travaille. À 16h, l'imaginoire. Et vous savez pourquoi 16h et pas 15h ? Parce que 15h, il n'y a pas de Telex. Donc les Telex, c'est à vous de les faire. Ouais, ça va beaucoup moins bien, en fait, quand c'est pas nous qui faisons. Non, le Telex... au 04 75 93 30 25, vous pouvez déposer une annonce pour vos événements et elle sera diffusée, cette annonce, à 9h et 15h tous les jours. Donc il n'y en a pas aujourd'hui. À 16h, l'imaginoire. À 17h, la rediffusion de l'onde curieuse. À 18h, solidaire d'abord, la rediff. À 19h, tu danses. À 20h, chez Tonton. Et à 21h, Hexagone Live, qui est consacré à Béranger, un concert à Lille. C'était à la fin des années 90, 98, je pense. C'est un petit clin d'œil de DJ Steph pour le prochain concert de Phrasiac, qui sera au Bourneau le 31, je pense, février. On se retrouve demain pour une prochaine Onde Curieuse. Et d'ici là, prenez votre parapluie. Ciao.